Bonjour à toutes et à tous. Dernière étape de cette semaine toute numérique, donc une dernière étape où l'on rejoint l'ensemble de la chaîne qui déroule ce vendredi le récit de nos vies numériques. Comme à notre habitude, la série d'émissions se conclut en images. Carte blanche à Ina Mihalash pour 5 vidéos chinées donc sur la plateforme YouTube. C'est parti. Puisque nous vous invitons à interagir et puisque nous vous lisons avec intérêt, je peux vous faire part d'un courriel reçu hier soir d'un auditeur à qui il semblait que nous manquions à notre travail journalistique en ne donnant pas la parole dans une semaine toute numérique à une partie de la population qui, je cite, « remet en question cette vision du monde totalitaire ». Alors, au-delà du dégainage un peu hâtif du mot « totalitaire », c'est l'usage du mot « vision » qui peut nous arrêter. Il avance que le numérique serait une idéologie, un prisme, une vision. Or, nous parlons bien d'outils, omniprésents certes, mais qui demeurent des outils. Et comme tous les outils, il faut en faire ce que l'on veut, y compris bien entendu, pouvoir ne pas les utiliser. La discussion reste ouverte, force est de constater que l'outil mail est plutôt pratique pour ça. Il est 14h passé de 1 minute, bienvenue à vous dans les Nouvelles Vagues. Les nouvelles vagues sont portées par des machines, parfois par des lignes de code aussi, et très essentiellement par des humains qui y sont inévitablement liés. Nous demandons à une personne chaque semaine de nous raconter 5 moments qui marquent pour elle le départ de quelque chose, pourquoi pas de nouvelles vagues. Et cette semaine, c'est Sonia Bester, alias Madame Lune, qui s'est prêtée à l'exercice. Elle nous raconte aujourd'hui des spectacles au village du Pin, des étés d'enfance et des histoires d'amour qui finissent mal, évidemment, 14h50. C'est le dernier jour d'une semaine toute numérique, dernier jour qui, comme chaque vendredi, fait entendre des images. Habituellement, nous demandons à quelqu'un de décliner notre thème en 5 extraits de films ou de séries. Et aujourd'hui, nous vous avons demandé, Ina Mihalash, de choisir 5 extraits de vidéos sur YouTube susceptibles de dire quelque chose d'une part de ce que l'on peut y trouver, d'autre part de ce que vous y cherchez, peut-être d'autre part encore de dire quelque chose de cette plateforme incontournable où le pire et le meilleur se côtoient comme partout. Nous vous demandons à vous, car sous le pseudonyme Solange te parle, vous signez depuis plusieurs années des vidéos postées sur votre chaîne YouTube avec les revenus de laquelle vous avez en partie financé un long métrage, Solange et les vivants, qui sort en salle le 9 mars prochain. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Marie.
On peut aussi signaler Solange te parle, qui est un livre tout jaune avec vous en couverture dessinée et qui paraît aux éditions Payot et qui n'est pas sans lien avec, avec ses vidéos YouTube. Alors je cite ce mail d'auditeur qui est probablement représentatif d'autres mails d'auditeurs que nous n'avons pas reçus mais qui étaient à deux doigts d'être envoyés, je n'en doute pas, sur la formule utilisée cette semaine, à savoir le tout numérique, qui affirmait pour nous l'idée d'une non-séparation ou d'une séparation qui n'aurait plus cours entre un monde qui serait numérique et un monde qui ne le serait pas. À partir de quand cette non-séparation, elle a fait sens pour vous, si elle le fait ?
À partir du moment où, finalement, les humains avec qui j'entre en contact sont pour la plupart virtuels, bien davantage que les relations physiques que j'entretiens avec très peu de personnes au final, et que mon état de bien-être ou de mal-être est dicté finalement par ce que je vis sur les réseaux au quotidien, jusqu'à espérer peut-être chercher maintenant à m'en couper. C'est le parasitage du numérique dans la vie réelle, quand ça devient à la fois le lieu d'interaction, de travail, d'amour, de fantasme. On est vite submergé par tout ça.
Donc vous pensez encore les choses comme étant le parasitage d'une zone que vous dites numérique sur la vie réelle. C'est encore une séparation qui finalement a lieu ou a cours pour vous.
Là, je l'analyse, mais je pense qu'au quotidien, il y a du numérique partout dans mon cerveau et même dans mon corps. Je sais pas, la frontière, là je la définis consciemment, mais je pense qu'inconsciemment, tous les jours, je suis hantée par des vagues numériques.
Souvent, on parle de la première fois où l'ordinateur est arrivé à la maison, de la révolution très importante de l'ordinateur personnel, et puis de la révolution peut-être encore plus importante ou plus conséquente de l'accès à l'Internet. Vous vous souvenez, vous, de la première fois ou des premières fois ?
Oui, j'avais 14 ans. Et c'était les chats, de me rendre compte à quel point je pouvais fantasmer très fort sur un mot, sur des points de suspension, sur des adjectifs, être très vite dégoûtée par des abréviations ou des fautes d'orthographe. Et puis très vite, il y a eu la webcam qui m'a vite permis de me mettre en scène et de me rendre visible à des inconnus et à un rapport à la séduction et au début de la sexualité. Et quelque part, la certitude de pouvoir trouver parmi cette foule anonyme quelqu'un qui me plairait absolument et que tous ces zéros, tous ces uns, tous ces pseudos me permettraient de faire un tri quelque part très organisé et de trouver les personnes qui me toucheraient parfaitement.
C'est ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait encore référence alors à cet email qui nous arrivait avec beaucoup d'aubaines qui terminait en disant nous ne voulons pas être réduits au néant du 1 et du 0. Mmh. Est-ce que vous diriez que justement ce code binaire, hein, ce 0 et 1 qui est un code informatique qui sert à plein de choses, est quelque chose qui mène l'humain, le palpable, le charnel au néant? Parce qu'il y a un très grand fantasme autour de ça.
Oui, mais je crois qu'il fait écho à un néant que moi je... auquel j'ai été confrontée même avant Internet. C'est là où le miroir est assez fonctionne bien, parce que moi j'ai l'habitude de dire que quelque part ce que je vis virtuellement avec les gens, c'est là où la relation est la plus pure et où elle peut s'exprimer le mieux, alors que je reçois des mails aussi de gens qui sont persuadés qu'il y a quelque chose de plus à vivre avec moi dans la réalité, et c'est faux. Je pense que c'est faux. Et donc, quelque part, moi, le numérique a réussi à m'apaiser du néant de la réalité, en fait.
C'est d'ailleurs quelque chose que vous mettez en scène à un moment donné dans ce film Solange et les vivants, quand l'un des auditeurs ou spectateurs de cette chaîne YouTube trouve votre adresse, vient toquer à votre porte avec un bouquet de fleurs et à qui vous répondez « Je ne fais pas de conférence, nous n'avions pas rendez-vous, entre guillemets, je n'ai rien à offrir de plus que ce que je mets en ligne », ce qui est assez intéressant parce que en même temps on a tout à penser que c'est pas exactement vrai. Enfin, ça pose toutes les questions de la frontière en fait de ce qu'on offre, de ce qu'on met en ligne, de ce qu'on met en lien.
Oui, et c'est la problématique de tous ces gens qui s'adressent à un large public, ou qui sont un peu timides comme moi, ou solitaires. J'ai l'impression que quand on s'adresse à une grande somme de gens, et qui possiblement peut-être le monde entier, il y a un phénomène de générosité absolue, d'ouverture et de disponibilité, qui lorsqu'on se retrouve face à une personne donnée, ne peut plus avoir cours. Et c'est triste, enfin, mais à la fois, je pense que c'est le moteur de cette énergie que je déploie en ligne aussi. C'est ce fantasme, ce Solange te parle, ce toi, qui est-il ? Je ne sais pas. Parfois, je pense que c'est moi-même. Et oui, son terrain, enfin, sa scène est impalpable. Et j'ai pour habitude de dire que la rencontre physique n'est que déception.
Puisqu'on va se promener et faire une brocante de vidéos YouTube chinées sur cette plateforme, quel usage vous en avez de cette plateforme ?
Très boulimique. Il y a ce mot de procrastination. Enfin, je suis happée par ces solitudes qui me parlent, par ces individus qui adressent ces sommes d'heures et de minutes, et j'avale tout. Et bon, bien sûr, je suis parfois désolée que les vrais artistes ne se soient pas encore vraiment emparés de ce lieu qui est un véritable atelier pour moi, enfin qui est une fin en soi et auquel je crois et je prête un grand avenir. Mais donc il y a beaucoup de déchets, mais c'est une évasion, c'est peut-être une perdition aussi. C'est peut-être le néant. C'est du voyeurisme, du temps passé ensemble. c'est un nouveau mode d'amitié solitaire, c'est assez mystérieux, j'y passe trop de temps.
C'est intéressant, vous faites comme si vous ne faisiez écho qu'à ces vidéos postées par des individus. Or, on trouve plein d'autres choses sur, YouTube, on trouve de la publicité, on trouve des extraits de films, on trouve des bandes-annonces de films, on trouve des films d'art, on trouve des danseurs qui se mettent en scène pour de futurs spectacles. Donc c'est le prisme est infini dans ce qu'on peut. Or, vous pointez singulièrement des vidéos, en tout cas c'est la première chose qui vous vient à l'esprit, des vidéos postées par des individus dans un certain registre en fait.
D'intimité. C'est ce qui me bouleverse le plus, c'est ce qui me semble propre à cette plateforme aussi. C'est le côté très démocratique de je suis seule, je me filme et je le poste à quelqu'un qui sans doute me regardera seule. Et c'est ça qui continue de me fasciner. Sans doute, j'en ferai peut-être le tour un jour, mais quand il y a des équipes derrière, quand il y a un plus grand nombre d'intermédiaires, ça me rapproche plus des médias traditionnels. Et là, oui, je suis moins intéressée.
Je ne vois aucune raison objective de regretter ma solitude. Seule, j'ai une vision claire de l'ensemble des possibilités. L'état de solitude dans lequel je suis me préserve des compromis qui, si je m'y soumettais, finirait par émousser mon libre arbitre. Seul, je n'ai pas à négocier chaque action. Seul, je peux prendre des décisions sans hypocrisie. Seule, je suis certaine de ne heurter personne.
C'est un extrait de Solange et les Vivants, votre film long-métrage, Nami Alash. Alors, on va d'une solitude qui est ce premier long plan séquence à une solitude qui n'est pas résolue, qui est un autre plan, puisque c'est le début des vidéos postées sur YouTube. En tout cas, c'est ainsi qu'on peut interpréter la fin du film. La solitude n'est absolument pas réglée dans ce film. Elle est abordée, travaillée, visitée par plein de gens, puisque peut-être vous allez le raconter, mais en effet, la solitude du personnage de ce film est consolée ou accompagnée par des personnes qui passent la voir, mais elle n'est pas solutionnée. Ce n'est pas un film qui solutionne la solitude.
Non, parce que quelque part, ma démarche en atterrissant sur YouTube, c'était quelque part de déposer les armes et de dire je ne vais pas... Enfin, la démarche de Solange, enfin, ce personnage qui dit je vais faire comme je peux avec ce que je suis. Et quelque part, il y a une sorte de douce rébellion dans le fait de dire, et c'est ce qui touche, je crois, les personnes qui suivent mon travail, c'est on peut décider de ne pas faire comme il faut ou comme il faudrait ou comme on nous dit de faire. Donc oui, il y a un petit peu de nihilisme. Dans le film, dans le parcours du film et dans ce personnage de Solange aussi.
C'est d'ailleurs presque littéralement l'une des phrases des premières vidéos que vous postiez sur YouTube où vous réfléchissiez à la manière dont se perd ou peut se perdre une langue maternelle et vous terminiez dans un accent québécois un peu aidé par la bière par dire ce qu'il s'agit de faire, c'est d'être capable de dealer avec ce qu'on est dans le fond. Et dealer avec ce qu'on est dans le fond, c'est vraiment, il me semble, comme le souterrain, le message souterrain de à la fois toutes les vidéos que vous postez, mais aussi toutes les vidéos que vous avez choisi de poster aujourd'hui dans la radio, dans la plateforme de la
radio. C'est rigolo parce que on me rapporte que dans les FNAC, mon livre est classé en développement personnel. Et au début, ça m'a un peu choquée, puis finalement, je me suis dit, oh, pourquoi pas, en fait. Et c'est vrai que la démarche depuis le début, c'est d'apporter du réconfort, de faire sourire, de divertir aussi, bien sûr. Mais je pense que les démarches d'artistes qui, moi, m'ont m'ont bouleversée et m'accompagnent encore, ce sont des gens qui te disent ben ça va, enfin il y a rien à faire, mais ça va aller. Donc faire avec.
Ce classement dans les FNAC en développement personnel, c'est quand même un pied de nez assez drôle, dans la mesure où votre travail n'est pas sans se référer de manière quasiment explicite à, par exemple, le travail de Sophie Kahl, pour ne citer qu'elle, qui, il y a quelques années, invitait des gens à se relayer dans une chambre pour dormir, qu'elle photographiait ou filmait. Dans le film Solange et les vivants, des gens se relaient pour combler, accompagner ou câliner la solitude de Solange dans sa propre chambre. C'est comme si vous jouiez quand même sur deux tableaux, deux niveaux de lecture. L'un très au fait de ce que propose l'art contemporain et l'autre très au fait de ce que propose le développement personnel au XXIe siècle.
Oui, ça déroute beaucoup et je pense que y a beaucoup de gens qui s'imaginent encore que sur YouTube, et, c'est le cas, mais qu'il y a beaucoup de déchets et que c'est un peu du divertissement de bas étage et que moi, quand je suis là-dedans et comme j'ai tout fabriqué toute seule, c'est un peu difficile. Même pour moi, je pense que je souffre du syndrome de l'impostrice. Je sais pas trop où me catégoriser. Et YouTube n'a que 10 ans. Et on demande aux YouTubeurs, bah, qu'est-ce que vous avez prévu après? Comme si c'était une sorte de sellette et qu'on allait exploser et qu'on avait une minuterie attachée au cou. Et donc, c'est très difficile de se situer, même en tant que jeune de notre génération, de se dire qu'on va pas faire un seul travail, enfin qu'il faut avoir plein d'options et qu'il y a trop de possibilités et que c'est déprimant. Et donc oui, la question de qu'est-ce que je fais, je me la pose. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je, tous les jours, je doute énormément sur la définition de ces objets qui sortent.
Le fait de gagner de l'argent avec ça, ça change la question? Ça oriente cette question? Ça la pose différemment?
Ben, ça pose d'autres questions parce que c'est un partenariat publicitaire, donc la publicité qui apparaît avant, après, pendant ou à côté. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question de l'éthique de ça, qui décident de ne pas monétiser leurs vidéos et de plutôt faire appel au financement participatif à côté. Moi, je n'ai pas encore fait ce choix parce que je l'avais fait pour mon long métrage. Donc c'est beaucoup demandé à un public et on peut pas non plus demander à son public de devenir producteur parce que ça pose toutes sortes de problèmes, parce que finalement c'est toujours se chercher un patron. Et moi, j'ai pas envie que mon public décide de ce que je vais produire, mais les revenus, c'est rassurant parce que quelque part, c'est du temps passé à faire quelque chose qui est reconnu. Donc pour ça, oui, mais il y a toujours la question de si quelqu'un regarde ma vidéo et avant, il y a une pub pour le Fanta. Je me demande, bon, est-ce que tout ça a bien du sens?
Et comment vous y répondez à cette question? Parce que c'est aussi le lieu, puisqu'on parle de YouTube, cette plateforme, c'est aussi le lieu où on ingurgite le plus de publicité forcée, on est d'accord.
Oui. Hein.
Quel que soit ce qu'on regarde, la plupart du temps, on a une publicité qui précède, voire une publicité qui succède, voire une publicité qu'on ne peut pas skipper ou avancer.
Oui.
Donc c'est un bon lieu de consommation publicitaire. Forcément, vous y avez pensé.
J'y ai pensé... Peut-être pas tant que ça, enfin, parce que aussi je vois des bandes annonces de films, je vois... Non, peut-être qu'il y a du déni. Pour moi, comme je suis vraiment toute seule, je suis pas protégée, j'ai pas de chaîne, j'ai pas de producteur, j'ai pas de distributeur, je suis vraiment toute seule. J'imagine que cette question n'a pas encore a été assez fouillée pour l'instant. Je surfe avec les autres sur cette vague-là et malheureusement, oui, peut-être je me suis pas assez interrogée sur l'éthique de tout ça, mais ce sont des vues, enfin, j'ai l'impression que j'enrichis, c'est du temps que passent les gens avec moi, donc oui, pour l'instant, je prends.
Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!
If you're tired of starting over, stop giving up.
Inami Alash, c'est la première vidéo que vous proposez de faire entendre. C'est d'ailleurs un exercice assez intéressant de ne faire entendre que le son des vidéos que vous avez trouvées sur YouTube. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est l'acteur, performeur, artiste et fou, Shia LaBeouf, j'ai regardé un peu la genèse de tout ça. C'est un exercice qu'il a fait en école d'art où il est sur fond vert. Il a une gestuelle très très particulière, assez guerrière. Et donc c'était des étudiants en art qui lui avaient fourni du texte. Et donc c'est qu'un tout petit extrait d'une performance beaucoup plus longue et qui a fait le tour d'Internet avec ce qu'on appelle un mème. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'est un mème, mais c'est en plus l'ayant fait sur fond vert et l'ayant offerte à Internet sous forme de Creative Commons, ça permettait de réutiliser donc l'image de Shia dans de multiples contextes. Et c'est le principe d'un pep talk, comme on dit en anglais, c'est un discours d'encouragement, avec là, enfin je sais pas si c'est voulu ou pas, mais cette phrase de Nike, do it, fais-le, je suis assez fascinée par ce personnage et par cette philosophie en kit de juste fais-le. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est visité de spasmes intestinaux, enfin quelque chose le prend. C'est finalement un message ultra positif dans lequel il s'investit complètement jusqu'à devenir rouge et je me retrouve dans cette démarche d'encouragement finalement au-delà du cynisme de tout un chacun qui irrigue aussi beaucoup Internet. Donc j'ai beaucoup d'amour pour ce message et cet homme et je trouve ça très drôle.
Comment vous l'avez découvert ? Par quel chemin est-ce que vous vous souvenez ?
Je crois que je l'ai vu apparaître...
En suggestion ?
Non, je l'ai vu apparaître, j'imagine ça devait être sur Twitter, en image fixe, avec cette posture qui prend à mi-chemin entre les arts martiaux et la posture animale. Et après, je l'ai entendu. Enfin, c'est une référence que les gens s'échangent comme ça, qui apparaît dans des vidéos. Et j'ai mis du temps à retomber sur l'original. Et c'est en préparant cette émission que j'ai compris que c'était beaucoup plus long. Hein. Enfin, la vraie performance dure toute une heure. Oui, donc c'est un personnage d'Internet. C'est comme le Nyan Cat. C'est des passages obligés.
C'est intéressant que vous parliez de référence parce que avec la manière dont on peut s'abreuver d'images en mouvement, d'images fixes, de corps, de paroles, de façon de s'engager dans une vidéo sur YouTube, évidemment quand on fait ce que vous faites, à savoir un travail qui se situe quand même à la frontière un travail artistique, de recherche artistique, est-ce que vous avez été très influencé par certaines prises de parole sur YouTube, par certains corps ? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont ouvert la porte de certaines façons de faire ?
Oui, je pense notamment à l'américaine Grace Helbig. Alors, elle a 3 millions d'abonnés, enfin, c'est très mainstream. Mais dans une démarche de ce qu'elle appelle stream of consciousness, qui est drôle parce que c'est aussi ce qu'on dit, par exemple, de Virginia Woolf ou d'un certain courant littéraire où c'est finalement...
Des flux de conscience, donc.
Oui, voilà, laisser surgir des choses que beaucoup en France, on peut mépriser en parlant d'improvisation. Même mon film est fait d'improvisation. Et c'est vrai que je pense que ça fait partie d'une nouvelle façon de faire où on ne va plus autant passer de temps à préparer les choses, mais justement à les faire, à do it, à faire les choses. Et que moi, quand je m'installe devant ma caméra, que j'allume le moteur et que j'écris devant la caméra dans un flux de conscience, je trouve que c'est une nouvelle façon d'écrire qui a une très grande valeur et qui, je pense, gagnera à être connue parce que le temps de fabrication va se raccourcir. Je pense que c'est obligé.
Hey everyone, it's Andrew Wong. I wanted to do a challenge with a German song because I'm in Germany right now. Donnarolla and I have a bunch of shows and meetups coming up in Cologne, Hamburg, Berlin, Munich, and then we're going over to England to do some stuff in London, Birmingham, and Manchester. So if you're anywhere nearby any of those cities, I hope you can come out. I'd love to meet you. Get all the info about that here. I'll also put a link in the description. That's all for today. Thanks for watching, guys. I'll be back with new music soon. Bye!
Deuxième extrait de ces vidéos que vous avez trouvées sur YouTube, Inami Alash. Alors là, il s'agit d'une reprise, on l'a entendu, de la chanson 99 Red Balloons. Par qui et comment vous êtes arrivé à cette vidéo-là?
Alors c'est Andrew Huang, qui est un musicien américain, je crois, qui fait des reprises de vidéos très DIY, encore un terme typiquement internet, do it yourself, fais-le toi-même. Et on pourrait dire que Solange et les Vivants est un film DIY aussi. Donc il a utilisé, je crois pas qu'il en ait utilisé 99, mais il a fait cette chanson qu'à partir des sons d'un ballon de baudruche rouge. Et on voit dans la vidéo tous les cadres avec les différents sons, soit il frotte, soit il tire, soit il souffle, soit il dégonfle. Et il a fait la même chose avec de l'eau, avec une pomme, avec du papier, des ciseaux. Je suis tombée dessus, YouTube, l'algorithme de YouTube est pas toujours très évident parce que YouTube te repropose des choses que t'as déjà vues ou des choses qui ressemblent à ce que tu aimes. Donc c'est difficile de trouver des nouvelles choses, mais après quand tu es abonné à des gens, tu peux avoir accès à ce qu'aiment les gens auxquels tu es abonné. Donc c'est un rhizome comme ça. Et donc je crois que c'était une personne que je suivais qui a aimé cette vidéo. Et ça représente pour moi ce qui me fascine aussi dans la solitude d'Internet et de YouTube, de ce qu'on peut faire avec rien, ou avec soi-même, ou avec son corps, ou avec un ballon de baudruche, ou une pomme, ou un papier. C'est-à-dire comment on fait à partir de rien dans cette ère où il y a tellement trop de possibilités avec tout et trop de moyens et des films à 63 milliards d'euros et que finalement on peut faire une vidéo qui fait 3 millions de vues avec un ballon de baudruche et un micro. Et ça continue de me toucher.
De vous toucher de quelle manière, vous diriez? C'est, par exemple, c'est de la joie en dehors de la performance et du caractère assez drôle quand même de cette reprise. Vous vous dites, il y a quelque chose de joyeux que le bricolage à cette échelle puisse être vu de manière mondiale et exponentielle.
Oui, c'est un minimalisme, c'est le plaisir de se dire, finalement, il y a beaucoup de ça, les gens qui vous détestent en ligne, c'est aussi parce qu'ils se disent, moi aussi, je peux le faire. Donc, bien sûr, mais tout le monde ne le fait pas. C'est se dire, c'est comme moi, quand je m'enferme 24 heures dans mes toilettes, ça, beaucoup de gens vont dire, non, mais ça sert à quoi? C'est quoi l'intérêt? Bien sûr. Mais c'est toujours se dire, finalement, ce constat assez beckettien que la vie est longue et n'a pas de sens, mais pour autant, on va faire des choses ridicules très très sérieusement. Et ça me rassure sur peut-être un état de déprime.
Wow, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my god. It's a double rainbow all the way. Wow, that's so intense. Whoa, man. Wow. Whoa. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god. Woo. Oh my. Wow. Woo. Yeah. Oh my. Oh my god, look at that. It's starting to even look like a triple rainbow. Oh my god, it's full on double rainbow all the way across the sky. Oh my god. Oh my god. Oh god. What does this mean? Oh! Oh my god! Oh! Oh god! It's so bright! Oh my god, it's so bright and vivid! Oh! Oh! Oh!
If I have the space, I have a day, I'm ashamed. this way. And I desire to make amends. But it don't make no difference now when no one's listening anyhow. And list of sins and solemn vows don't make any friends. There's an old trick played when the light and the wine conspire. But I have got half a mind to maybe get there yet. When the sky goes pink in Paris, France, do you think of the girl who used to dance when you'd frame her moving within your hands? Saying this, I won't forget. Does that man endure somewhere far away? Our lives come easy and our lives come hard, and we carry them like a pack of cards. Some we don't use, but we don't discard, but keep for a rainy
Joanna Newsom dans les Nouvelles Vagues sur France Culture avec vous, Ina Mialache. C'est vous qui avez d'ailleurs choisi d'entendre la voix de Joanna Newsom juste avant une autre voix, celle de la troisième vidéo chinée sur YouTube qui s'extasie devant d'abord un premier arc-en-ciel, puis un deuxième arc-en-ciel. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette voix ?
Alors, c'est selon mes recherches, c'est un fermier de Californie qui a filmé ce double arc-en-ciel depuis la cour de sa ferme. Et c'est une vidéo, c'est un classique des vidéos virales qui ne peut pas ne pas faire sourire et qui témoigne du caractère absolument universel de se retrouver dans un moment inouï, allumer une caméra et diffuser ça sur YouTube et ne plus être responsable de ce qu'il adviendra et que ça devienne finalement un mythe. Et dans ce cas, c'est une sorte d'orgasme existentiel de cet arc-en-ciel. J'ai hésité aussi, il y a une autre vidéo d'un alpiniste norvégien qui creuse dans la neige et qui découvre qu'il avait laissé un sac de chips et qu'il est complètement... Il jubile de retrouver ce sac de chips. Et ces vidéos, ces feel good vidéos, qui sont, qui encore une fois, enfin, il y a ces constantes qui vont à l'envers du cynisme et qui dépassent leur auteur finalement.
Tout à l'heure, en début d'émission, vous disiez que vous aviez une consommation boulimique oui. des vidéos sur YouTube. D'une part, sans révéler trop de votre vie personnelle, ça veut dire quoi boulimique, pour se faire une idée ?
Je pense au moins 2 heures par jour.
2 heures par jour avec des possibles replays. Vous rejouez par exemple cette vidéo d'une personne qui regarde, filme un double arc-en-ciel et s'extasie jusqu'à jouir de ce double arc-en-ciel. C'est quelque chose que vous avez pu regarder plusieurs fois ?
Je pense que oui, et souvent, comme beaucoup, c'est aussi pour la faire découvrir à des gens. Oui, ou quand ça repasse sous les yeux dans les fils Twitter ou Facebook, oui.
Vous jouez aussi de cette consommation un peu extraordinaire de films ou d'images sur YouTube, notamment dans vos vidéos « Solange te parle », où vous mettez en scène parfois votre propre consommation, où vous réfléchissez à cette propre consommation. Je pense notamment à quelque chose qu'on m'a raconté récemment, que je n'ai pas vu moi de mes yeux vus, mais de tout un visionnage de, comment on dit, exhaustif des films et des séries dans lesquelles elle jouait Léa Seydoux.
Oui, c'était toute la filmographie de Léa Seydoux. C'était 53 heures que j'ai passées pour le réveillon du 30 au 1er. Oui, c'était une performance pour épuiser, enfin pour essayer de vivre à fond mon sentiment d'envie et de jalousie par rapport à cette actrice qui a croisé mon chemin à un moment et finalement voir où on en est aujourd'hui et c'est me poser cette fameuse question pourquoi elle est pas moi et finalement vivre cette catharsis en sa compagnie et diffuser ce visionnage enfin c'est qui est aussi un emprunt à Shia LaBeouf qui avait regardé toute sa filmographie dans un cinéma new-yorkais en novembre. Oui, c'est dans la limite de faire des choses un peu absurdes, mais complètement, oui.
C'est-à-dire absurde et en même temps, ça rejoint toute une tradition de la performance artistique, c'est-à-dire le jusqu'au-boutisme qui touche aussi à des limites physiques, qui touche à des limites de l'attention, qui touche à des limites du possible. Est-ce que c'est une culture, cette culture de la performance, qui vous irrigue, dont vous avez connaissance, qui est une culture que vous voilà.
Oui, je m'inscris dans elle et je m'y retrouve et elle m'inspire. Maintenant, c'est toujours aussi le problème d'être sur YouTube, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui réfléchissent encore sur YouTube comme lieu de performance ou même de déploiement d'un art, si on peut l'appeler comme ça. Donc, je me retrouve aussi je me heurte à l'incompréhension de pas mal de gens qui n'ont pas cette culture et qui m'insulte. D'ailleurs, c'était le sujet de ma plus récente vidéo. Donc, c'est compliqué et c'est fatigant, mais j'ai bon espoir de creuser un sillon et il y a tellement d'atouts pour celui, enfin, la diffusion, ne serait-ce que la diffusion en direct.
C'est un outil que vous utilisez souvent, la diffusion directe ?
Non, très peu et parcimonieusement parce que c'est très fatigant et ça devient vraiment de l'art vivant et j'estime que c'est un vide qu'il faut parvenir à remplir et il faut que ça reste événementiel. Mais là, j'ai été assez fière de... Bon, j'ai eu des ennuis techniques évidemment, mais j'ai été assez fière de passer ce réveillon en compagnie de Léa Seydoux et d'au moins... d'entre 100 et 800 personnes en fonction de l'heure du jour de la nuit.
La chanson de Joanna Newsom que vous souhaitiez faire entendre dit « The things I say ». Pourquoi cette chanson-là ?
Parce qu'il y a dans sa voix justement quelque chose d'improvisé, d'inattendu, enfin dans sa virtuosité, on ne sait jamais quelle note va suivre l'autre, et cette surarticulation un peu enfantine me touche et fait partie de ces figures féminines qui m'inspire.
Qui nous permet aussi de parler de votre voix, qui est un des ingrédients de ces vidéos-là, qui est aussi, il semble, l'une des cordes que vous agitez, ou sur laquelle vous touchez, que vous travaillez d'année en année. Est-ce que c'est un vrai travail ? Vous parliez tout à l'heure de l'improvisation. Comment est-ce que vous avez conscience de travailler cette corde-là ?
C'est compliqué, puisque c'est lié aussi un peu à la fiction de ce personnage qui n'est pas moi, mais qui est quand même moi. Et moi-même, je ne sais pas bien la frontière. Donc... et puis je me laisse polluer avec cet endroit d'internet et donc je sais qu'il peut y avoir des allergies et c'est aussi une des raisons pour laquelle le livre s'est imposé à un moment, c'est-à-dire que c'était une manière de me poser, de compiler tout ce discours produit et d'en faire un objet débarrassé des scories de ma personnalité et qui devienne une sorte d'émissaire un peu neutre et pur et classique et dans une forme aussi physique où toucher le papier, passer du temps avec un livre, c'est finalement plus actif pour le récepteur, le destinataire, qu'une vidéo ou qu'on est en train d'écouter en jouant à un jeu, lisant les infos sur un autre onglet, écoutant la radio, finissant un document Word, où il y a de l'inattention inhérente à YouTube.
Il y a dans ce personnage qui est toujours à la frontière de vous et de ce personnage une diction qui me semble un tout petit peu plus appuyée, parfois un petit peu plus lente, parfois aussi un peu plus fragile dans l'arrivée des aigus, pour parler un peu précisément. Vous entrez dans cette voix-là? Vous entrez dans cette diction comme on entre dans un costume de personnage au moment de tourner?
C'est drôle que vous disiez ça. Oui, c'est, il y a peut-être, enfin, c'est beaucoup de dire de transe, mais c'est vrai qu'il y a une dimension d'abandon où quand la caméra tourne, j'ai l'impression de me laisser habiter par quelque chose que je saurais pas très bien définir, mais qui est sur le fil et qui donc produit sans doute ces particularités.
Qui n'est pas exactement le visage ou la voix que j'ai, par exemple, là devant moi. C'est pour ça que c'est assez intéressant de parler de cet état autre.
Oui. Et qui est lié à la solitude.
On est toutes les deux dans le studio.
Oui, c'est ça.
Alors, je te montre. You porn, comme du pop-corn. Le principe, c'est du porno gratuit. Tu devrais pas t'enlever de Facebook, parce qu'après, ils disent, tu sais, sur Facebook... Ah, tu crois que sur Facebook, c'est marqué quand t'as consulté un film... Je me déconnecte. Vaut mieux. Voilà, et donc après, c'est par catégorie.
Je connaissais pas...
Asiatique, femme forte, grosse fesse, gros sein, bisexuelle, blonde. Après, ta petite culotte, cream pie. Cream pie? Je sais pas ce que c'est, cream pie. Tarte à la crème. Ah. Je baisse un peu. Ouais. Squirting, je sais pas ce que ça veut dire. Vas-y, mais avance, c'est quoi? C'est pourquoi ils parlent, les gens, dans les films porno?
Just like men, we increase.
Oh, mais c'est incroyable! Les filles, elles ont plus de poils.
Ce que j'aimerais bien regarder.
Grosse fesse?
Non, c'est fantasy.
Cinquième vidéo, Inami Alash, que vous choisissez pour cette carte blanche de vidéo trouvée sur YouTube. De quoi s'agit-il?
Alors, c'est les cam girls, cam web. Les cam web, donc. Dont la moitié du duo Aglaé Dufresne joue dans mon film un rôle très mignon. Mais je crois que je suis tombée amoureuse d'elle en fait en tombant sur ce duo de filles qui se filment devant leur écran. On ne voit pas ce qu'elles voient et à chaque capsule, elles décrivent. Enfin, c'est un sujet de société plutôt parfois orienté féminin ou féministe et a priori, c'était d'abord sur Dailymotion, qui est la plateforme française, mais bon, ça s'est retrouvé sur YouTube parce que YouTube est incontournable. Mais donc, c'est un duo de filles dans un format plus proche, on peut dire, de la télévision. D'ailleurs, elles ont été diffusées sur France 5, je crois, qui s'interrogent un peu candidement. Elles travaillent par surgissement, je le sais pour en avoir discuté avec elles, devant leur caméra. Donc ce sont... c'est un peu des alter ego, comme je peux l'être aussi de Mafalda. Enfin, elles s'intéressent, elles s'interrogent. Et là, dans celle-ci, sur la pornographie, enfin, qui est pour moi, avec les actus, le grand terrain d'Internet. Et je m'y connais pas du tout, d'ailleurs, assez en pornographie. J'ai le projet de faire une vidéo là-dessus, qu'on m'explique un peu comment trouver la bonne pornographie. Parce que c'est l'océan, c'est la jungle. Donc, c'est un duo de filles qui n'est pas si fréquent, finalement, sur Internet et chez les francophones aussi. Qui me touche assez. Je pense que c'est lié à cette posture candide et
faussement.
Oui.
Non, mais je veux dire comme vous. Non, mais si, oui. C'est vrai, comme vous. C'est-à-dire, c'est quand même une posture qui utilise la naïveté ou le candide pour faire passer quelque chose, éventuellement expliquer quelque chose, mais qui ne l'est pas réellement.
Bah, j'ai l'impression que elles s'interrogent vraiment, c'est-à-dire qu'elles partent de table rase, en fait. J'ai pas l'impression qu'elles, quand elles lancent la caméra, elles ont un message ou elles ont décidé ce qu'elles voulaient communiquer. Ou alors, c'est le montage qui nous trompe. Mais non, bien sûr, elles sont pas dupes. Mais, puis elles sont plutôt futées. Mais, oui, moi, je me laisse avoir par la démarche très ouverte.
Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de pornographie, voire pas du tout, dans le sujet des vidéos que vous mettez en ligne. Il n'y en a même pas non plus dans Solange et les Vivants. En revanche, il y a de la sexualité, oui. Et dans vos vidéos, et dans vos films, comme un fil rouge, oui. À la fois traité comme des questions de société, comme vous le disiez, mais aussi traité comme un certain rapport de l'individu avec Internet, un certain rapport de la solitude avec la solitude des autres, comme si, au même titre que la solitude, la question de la sexualité était souterraine à tout ce que vous faites.
Oui, comme je vous l'ai dit, à 14 ans, quand j'ai eu Internet, j'ai essayé de séduire des types avec ma webcam. C'était une manière de me définir. Et je pense que c'est le lieu des fantasmes, puisqu'on peut tout imaginer, tout rencontrer, tout un chacun possiblement. Et que c'est vrai que le premier chapitre de mon livre s'intitule « Narcissisme 2.0 » et que j'ai ce rapport à la nudité, que j'essaye de débarrasser du spectre sexuel, mais qui est très très compliqué, étant donné les publics que draine YouTube, et qui fait partie pour moi, enfin le corps, c'est mon outil. Il y a ma voix, mais je crois que j'ai été assez intéressée à ce que je ne sois pas qu'une tête qui parle aussi, que d'autres parties de mon corps soient cadrées indifféremment. J'aime bien l'idée de la démocratie de tous les organes et c'est vrai que dès qu'on se montre nu, enfin c'est problématique pour des tas de gens et sur Internet encore plus. Et
dès qu'on parle de sexualité d'une manière qui n'est pas pornographique, oui. Dès qu'on parle de sexualité non pornographique, éventuellement habillée,
oui.
Et éventuellement en étant une femme, c'est-à-dire que par exemple, non mais il y a une oui. vidéo où vous parlez de votre propre rapport au pénis, à la oui. manière dont vous avez rencontré les hommes, à la manière dont vous avez débuté votre sexualité, il me semble que ce propos-là, de cette manière, sur la sexualité féminine et sur la sexualité plus précisément des adolescentes, est un propos qui est rare avec une telle audience.
Oui, oui, et pas forcément jeune. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui m'ont écrit « Ah, j'aurais aimé qu'on m'envoie ça il y a 10 ans » ou « Écoutez ça il y a 10 ans ». Parce que c'est bon, il y a le champ de l'éducation sexuelle. Enfin, c'est pas vraiment là où je me situe, même si c'est un peu de l'ordre du conseil de la grande sœur ou de la bonne amie. Même si c'est pas vraiment ça non plus. Il y a le billet d'humeur, mais c'est pas complètement ça non plus parce que je donne pas non plus exactement mon avis. Et puis, il y a quand même un côté militant, puisqu'il y a toute une intro un peu ironique qui vante les mérites du pénis pour après un peu contrebalancer. Donc oui, j'ai
un petit peu militant ou un peu plus qu'un petit peu. Non, mais c'est une question parce que ça pourrait être aussi l'un des biais de lecture de ce que vous proposez, qui pourrait paraître inoffensif, ce qui peut en faire une force.
Oui, je pense que je préfère laisser à l'auditeur choisir. Parce que ce qui m'attriste aussi sur Internet, dans les niches de militantisme, c'est que souvent j'ai l'impression que je fais des objets qui rassurent le plus grand nombre, mais je me heurte à des niches qui sont beaucoup plus engagées que moi, qui m'en veulent, pour des raisons que j'ai du mal à identifier. Et que je trouve triste parce que, a priori, moi, j'ai envie que le truc avance et que la cause s'installe. Et donc, je ne serais pas, quelque part, je préfère ne me revendiquer rien et que chacun y trouve ce qu'il a besoin d'y trouver.
Bienvenue sur Paris ASMR. Je souhaite te parler un petit peu de l'ASMR. Tu ne sais peut-être pas ce que c'est si tu viens de tomber sur cette vidéo. Ou peut-être connais-tu déjà cette technique, mais peut-être n'as-tu pas expérimenté toutes les techniques possibles dans l'ASMR. J'ai choisi de créer la chaîne Paris ASMR pour détendre, pour relaxer, pour permettre aux autres de pouvoir consulter mes vidéos et à la fois découvrir un peu de ma vie, un peu de Paris, le Paris tel que je l'apprécie, et surtout pour détendre. Alors, l'ASMR, ça consiste en une technique de relaxation, qui n'est pas encore complètement, les Anglais diraient mainstream, qui n'est pas encore totalement connu en France. Et l'idée, c'est d'écouter une personne chuchoter. C'est la raison pour laquelle je suis en train de chuchoter. Parce que le chuchotement peut provoquer une profonde relaxation chez certaines personnes. Il va y avoir aussi d'autres déclencheurs. Les Anglais appellent ça des triggers. Et Je vais te montrer quels peuvent être les autres déclencheurs qui pourront peut-être te permettre d'apprécier l'ASMR.
Pour ceux qui nous écoutent avec le casque, la voix de cette dernière extrait de vidéo se déplace, est spatialisée et donc va de droite à gauche. Ina Mialash, c'est la cinquième vidéo de cette carte blanche chinée sur YouTube. De qui s'agit-il ?
Alors c'est Paris ASMR, j'avoue que je ne savais pas très bien lequel choisir parce que j'ai plutôt l'habitude d'écouter en anglais, donc là j'ai cherché un extrait en français. Enfin c'est plutôt un courant, donc l'ASMR qui est Autonomous Sensory Meridian Response, enfin qui décrit ce phénomène qui est très délicat aussi parce que qui peut se rapprocher de sensations orgasmiques mais qui est purement enfin nerveuse, c'est les petits chatouillements qu'on a derrière la tête, enfin que certains décrivent, enfin aussi chez les quand on se fait masser la tête chez le coiffeur ou couper les cheveux ou tout le monde n'a pas ça, mais c'est un grand courant sur YouTube qui devient presque une industrie maintenant. Moi j'ai fait quelques vidéos d'ASMR aussi, et la plupart des gens qui les consomment sont insomniaques, enfin c'est pour aider à dormir ou à détendre ou... Et donc on est clairement dans le champ du bien-être et du développement personnel dans ce cas-là. Et ce qui me touche particulièrement, c'est le côté la vidéo doudou. On a des vidéos de 3 heures, par exemple, qui sont faites pour être lancées avant de dormir et être écoutées au casque et cette proximité. Parfois trouble de femmes très maquillées, russes, qui vous expliquent combien la tête d'oreiller est douce, où il y a ce qu'ils appellent les roleplay, où elle joue à être l'assistante dentaire qui va vous recevoir. Et vous
ah là, la pornographie n'est pas loin. Si vous cherchez à savoir où elle n'est pas très très loin de cette vidéo en tout cas. C'est certain.
Mais c'est très particulier parce que autant quand on lit les commentaires, les gens disent merci, je me suis endormie, ça m'a fait du bien.
Mais chacun ses façons.
Voilà, c'est très particulier. Ou alors des gens qui tripotent des objets, des boîtes de dés ou des ou qui vous font des faciales chez l'esthéticienne, ils vous mettent des huiles, des onguents et qui vous regardent et qui vous parlent doucement, des contes de fées. Enfin, c'est presque un retour en enfance, une présence quasi maternelle ou paternelle. Et j'en suis pas encore accro, mais le phénomène me semblait digne de mention.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Bientôt, la vidéo nous touchera vraiment, pour de vrai. 14h52 sur France Culture. Depuis la saison dernière, nous rencontrons toutes sortes de personnes pour leur demander de nous raconter des moments qui ont marqué leur parcours et qui ont initié, selon eux, des nouvelles vagues de pensée, de vie ou de création. Et cette semaine, c'est à Sonia Bester qu'on a proposé l'exercice. Elle est plus connue sous le pseudonyme de Madame Lune. Et aujourd'hui, elle nous raconte, pour terminer, un village de l'enfance.
Alors, le village du Pin, c'est à 16 km de Moissac. Et Moissac, je crois que c'est à 40 ou 50 ou 60, je ne suis pas très très précise, ou 80 km de Toulouse. C'est une petite fourchette, voilà. Alors, c'est le Tarn-et-Garonne, et en fait le Tarn-et-Garonne, c'est pas très très beau comme département, mais en fait c'est moins beau que le Gers par exemple, c'est moins vallonné. Mais ce village, de toute façon, il pourrait même être moche. Hein. Comme j'y vais depuis que je suis toute petite, je le trouve absolument magnifique. Et c'est vraiment juste une rue avec des maisons et au bout, ce château. Et c'est un château Renaissance au milieu. Enfin, c'est un château qui fait penser à l'architecture des châteaux de la Loire, en plein sud-ouest, si vous voulez. Donc c'est complètement anachronique. Moi, je pense toujours que c'est un peu le château de la Belle au Bois dormant et qu'il peut se passer plein de choses. Alors... maintenant, il appartient à des Russes qui, à mon avis, blanchissent de l'argent. Voilà. Mais bon, ça, c'est ce que je pense. C'est peut-être pas vrai du tout. Et il se trouve que là-bas, j'avais un jour une sorte de grosse peine de cœur. Et comme c'est un endroit où on fait beaucoup de spectacles de façon informelle, où il y a vraiment une part de vie, mais aussi de théâtre, mais de théâtre familial. Hein, c'est quelque chose de très naturel, en fait. J'avais une sorte de peine personnelle. Et en fait... ma famille a joué ce drame pour me faire rire. De ça est partie la tragédie du Belge, dans lequel d'ailleurs joue cette pièce de théâtre dans lequel joue Ava Hervier. Et en fait, du coup, on a organisé les premières répétitions là-bas, en plein milieu du village, sous la halle. Et c'est un texte complètement loufoque et déjanté, donc c'était assez drôle de faire ça au milieu du village. Et on a organisé une petite présentation du premier acte, parce qu'on avait travaillé le premier acte là-bas, en plein milieu du village. Et c'est vrai que c'est ça que j'aime beaucoup, en fait. C'est me dire que de quelque chose qui était un peu triste, finalement, il y a quelque chose de très très drôle qui s'est passé et qui après aussi avait un sens artistiquement, en tout cas dans ma démarche.
A high priest of money looks down on the river, the dawn coming up on his kingdom of gold. When the rim of the sun sends an arrow of silver, he prays to the gods of the bought and the sold. He turns to his symbols, his ribbons of numbers, they circle and spin on the mystical scroll. He looks for a sign while the city still slumbers, and the ribbons and the river forever unroll. In his kingdom of gold, his kingdom of gold, kingdom of gold, kingdom of gold.
Et on finit cette semaine avec Le Royaume de l'Or, chanté par Mark Knopfler. Merci beaucoup, Hina Mialage, d'avoir été avec nous cet après-midi. Solange te parle, le livre est publié aux éditions Payot. Et Solange et les vivants, le film sera en salle à partir du 9 mars.
Oui.
Bonjour Xavier Delaporte.
Bonjour Marie.
Vous êtes le fil rouge de ces journées qui déroulent le récit de nos vies numériques et on en est au 7e mot de ce dictionnaire intime du numérique.
Une chose la rend folle, ce sont les photos de ses copines sur Instagram. L'autre jour, alors qu'elle revenait de l'école après avoir déposé ses enfants fagotés comme des bibendums, en pleurs et la morve déjà au nez, elle ouvre son téléphone dans le bus, elle regarde Instagram et tombe sur une photo tout juste déposée par une copine, photo de beaux enfants, tout mignons, pris souriant devant la porte de l'école dans un rayon de soleil d'hiver. Elle a failli pleurer. Ça lui a fait le même effet que cette fille qu'elle suit, elle sait pas trop pourquoi, sur Instagram, et qui n'arrête pas de mettre des photos d'elle où elle est trop jolie au sortir du lit, trop jolie dans une cabine d'essayage avec la robe qui moule ses seins parfaits, trop jolie affalée dans un taxi en retour de soirée, et tous les commentaires laissés à côté de la photo, oh, ma chérie, qu'est-ce que t'es belle, et les mecs qui s'en donnent à cœur joie. Pourtant, elle sait comment ça marche. Elle sait que sur Instagram, les gens mettent des photos de la vie qu'ils ont envie d'avoir, plus que de celle qu'ils ont. Elle sait que les filtres transforment n'importe quel intérieur en page de Elle Déco. Elle sait qu'Instagram, c'est un peu les magazines de mode d'aujourd'hui, mais démocratisés, horizontaux, où tout le monde peut avoir l'air d'une star. Elle sait bien que c'est construit tout ça, elle n'est pas débile. Et pourtant, ça lui pèse, toute cette beauté qu'on lui envoie à la figure. Parfois, elle se dit qu'elle va montrer sa vraie vie sur Instagram. Les traces de moisissures sur le bord de sa baignoire, le steak trop cuit à la cantine du boulot, ou son collant filé. Mais bon, elle le fait pas.
Merci beaucoup Xavier Delaporte. C'était Instagram ou la beauté. C'était la 7e occurrence de ce dictionnaire intime du numérique qu'on peut retrouver et réécouter évidemment sur le site flambant 9 franceculture.fr. Et on retrouve Xavier Delaporte jusqu'à ce soir, au moins pour le déroulement de ce dictionnaire. Les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui et pour cette semaine, on peut réécouter toutes les vagues, celles d'aujourd'hui et celles d'avant sur franceculture.fr. On peut retrouver encore plus facilement l'abonnement au podcast, toutes les émissions, les archives et les séries à réécouter. Il y a Twitter ou Facebook pour continuer d'échanger ou la petite enveloppe rouge à droite sur la page des nouvelles vagues. Merci à Romain de Bec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent ces émissions avec moi. Une émission réalisée par Somanina avec aux manettes aujourd'hui Myriam Guy. Et au droit d'auteur, Paul Simonacci. Dans un instant, Mathieu Conquet qui passait Rihanna ce matin.